Cette semaine dans la cartouche, Lou et moi avons enfin vu le film Sonic. Sony a révélé la manette de sa PS5 et je vous invite à prendre du bon temps avec les jeux Valve sur Xbox One.
C'est la cartouche sur Blueprint.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder, je travaille entre autres pour Gamekult et Red Bull Games, et toi, c'est Lou Lassina-Foubert, auteur chez Third Editions et social media manager chez West France. Salut Lou.
Salut Yann.
Tu vas bien?
Bah écoute, ça va autant que faire se peut dans le contexte actuel, et toi-même?
Bah écoute, tranquille, niveau santé, les deux pouces en l'air, la famille va bien, le sourire comme ça est tiré sur le visage, en tout cas de ce côté-là, vraiment, tout est cool. Et puis surtout, je te retrouve enfin, Lou, après deux petites semaines, la cartouche se recale de nouveau sur un rythme différent. Beaucoup de travail hein, en ce moment, il faut le dire. De tous nos mandats un petit peu différents. Je pense que c'est la même chose pour toi, Lou.
Ah bah, surcroît de travail forcément sur les réseaux sociaux, comme tu peux l'imaginer. Les gens sont chez eux, donc ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur les sites d'information. Donc, et en plus, j'avais effectivement des collaborateurs qui ont été touchés par le Covid. Donc forcément, c'était c'est des semaines complexes à gérer, sans parler des vacances qui arrivent. Mais bon, bref. Tout ça, c'est du travail classique et ouais. C'est le temps aussi de se caler finalement avec cette époque un peu différente finalement.
Exactement. De mon côté, beaucoup de clients sont venus voir Blueprint pour des petites tâches de production média, justement un petit peu liées à la période, ce qui fait que moi aussi, je me suis retrouvé avec pas mal de taf. En tout cas, c'est positif dans un certain point parce que ça fait fonctionner l'activité. C'est cool pour nous sur ce versant-là. Par contre, ça veut dire que la cartouche, vous l'avez remarqué, est repassée en format tous les deux semaines. Du coup, on a un petit peu enrichi l'émission, mais quand même, hein, à chaque fois qu'on a un petit peu varié la formule de la cartouche ces derniers mois, on en apprend et on en fait quelque chose d'un petit peu différent. J'espère que vous allez continuer à kiffer la cartouche et notre approche du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers, on va parler d'adaptation cinématographique, on va parler de vieux jeux sur des consoles actuelles, on va parler de la manette d'une des prochaines consoles, d'une rumeur de jeu qui devrait potentiellement arriver, hommage à un personnage ultra culte, le calendrier de la cartouche, le courrier et en fin d'émission, à quoi joue-t-on? Mais tout d'abord, on va commencer par le film Sonic.
I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers. So I came to yours. It gets a little lonely, but that's okay. I am living my best life on Earth. What?
Le film Sonic qui est sorti avant le confinement et qui a eu le temps de faire d'énormes chiffres en salle pour un film de jeu vidéo, il a surpassé assez aisément Détective Pikachu qui pourtant n'était pas une catastrophe industrielle d'un point de vue commercial, qui n'était pas d'ailleurs une catastrophe industrielle du point de vue artistique, on a eu l'occasion d'en parler dans cette même émission. Et donc, Sonic the Hedgehog, on l'a regardé tous les deux en début de semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Première question d'abord, Lou, est-ce que tu l'as aimé?
Alors écoute, je suis le premier surpris parce que je pense, comme beaucoup, on a été vraiment refroidi par les premières bandes annonces et le premier look de Sonic. Hein, on s'en souvient tous, le film a été repoussé à cause de ça, à cause du look de Sonic qui effectivement a été largement décrié. Et ils n'ont pas hésité du coup à faire repousser la sortie du film pour que les équipes puissent travailler sereinement. Je crois qu'il n'y a pas eu de problème de crunch pour le coup, crunch dans le cinéma concernant ce film, et ils ont vraiment pris le temps de refaire quelque chose. Et la bande-annonce, pareil, le film avait pas l'air très je sais pas, enfin ça avait l'air très classique, tu vois, adaptation et tout de Sonic. Je vais pas m'en cacher, hein, je suis beaucoup plus familier avec les univers de Nintendo et notamment Pokémon de manière générale que Sonic. J'ai toujours aussi été plus Mario que Sonic. Et ben j'ai été le premier surpris. Je trouve le film vraiment très très bien. Je l'ai apprécié et je crois même que je l'ai potentiellement préféré à Détective Pikachu. Vraiment, tu vois, j'en suis le premier étonné. En termes de rythme, en termes d'humour, en termes de d'ouverture de l'esprit de la licence à un public plus large. Je l'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Et toi, comment ça s'est passé?
Je vais te rejoindre sur un point. C'est un film qui est beaucoup plus drôle que Détective Pikachu. Et je me suis surpris. Alors certes, la voix de Ben Schwartz, d'un côté Ben Schwartz, qui est notamment l'interprète de Jean Ralphio dans la série Parks and Rec, si vous la connaissez, la célèbre série d'NBC, qui se passe dans un petite tranche du gouvernement local d'une petite ville qui s'appelle Pawnee en Indiana. Ça, je referme la parenthèse. Enfin, c'est un bon comédien. Il a une voix qui détonne, il a une voix assez cartoon, Ben Schwartz, donc ça tombe bien qu'il l'ait recruté pour Sonic, et il peut quand même faire un petit peu la voix du Sonic qui se la pète, tel qu'on le connaît depuis les années Dreamcast, donc franchement, sa performance là-dedans marche bien. Notre ami Jim Carrey qui joue Eggman, alias Robotnik, il cabotine par moments. Je trouve finalement que le trailer le rendait plus drôle et plus punchy que sa performance dans le film en tant que tel. Ce qui est le plus intéressant avec Robotnik dans ce film-là, c'est plus d'ailleurs la physicalité du personnage, le jeu vraiment, et la danse même, on peut le dire, hein. Robotnik danse film Sonic.
Je trouve un petit peu sévère avec Jim Carrey. J'ai été bluffé, je suis pas spécialement un énorme fan de Jim Carrey, hein. J'ai apprécié ses performances, j'ai vu The Mask comme tous les jeunes de l'époque. J'ai adoré Truman Show comme beaucoup de gens, mais je trouve vraiment qu'il donne quelque chose au personnage. Oui. Et justement, c'est pas du Jim Carrey, tu sais, le grimaçant, le tout auquel on est habitué. On est sur quelque chose d'un peu différent. On est sur une espèce de génie fou, mais pas non plus farfelu. Ce qu'on aurait pu croire, enfin pas totalement farfelu en tout cas, mais rien que la scène de la danse avec le T-Rex justement, cette scène là
quand il mime le ski aussi, c'est tellement bon,
qui est totalement inutile, on dit cette scène est totalement gratuite, et en même temps ça donne une certaine classe et une certaine hauteur à Robotnik que le personnage n'a jamais eu, en fait, finalement.
C'est là pour cimenter le fou dans le savant fou. Dans le jeu vidéo, il est plus savant que fou. Enfin, après, ça dépend un petit peu des jeux, mais de manière générale, c'est plus le savant excentrique que le savant fou. Là, on nous en fait un dictateur fou qui est très très proche, attention référence, de Sonic 2006 en matière de personnage. On est vraiment sur le proto-dictateur, le proto Saddam Hussein du monde Sega, en quelque sorte. Hein.
Il y a un petit côté Sonic Adventure, quoi. C'est ça.
Oui, voilà, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi, reste que je trouve l'écriture un petit peu facile sur certains aspects. Il y a certaines vannes un petit peu pipi caca dans le film en général, certains gags qui sont d'ailleurs attribués à Sonic de ce côté-là, que j'ai trouvé passable voire mauvais, mais sur le personnage de Robotnik, je trouve qu'il est écrit, en tout cas dans la première moitié du film, de manière un peu trop monolithique. Il est vraiment méchant et cruel avec tout le monde, à un point, comment dire, où on nous rappelle toutes les 30 secondes, regarde, il est cruel, regarde, il déteste vraiment tout le monde, y compris les gens qui sont avec lui, parce qu'il n'adore que les machines en vérité. Oui, on a compris. C'est bon.
Ça l'empêche pas d'être surprenant par moment. Il y a 2-3 petits trucs qui m'ont assez surpris en termes de répliques que j'ai trouvé. Et surtout, ce que j'ai adoré, pardon, sur Robotnik, c'est la fin. Alors je vais pas spoiler, mais c'est une espèce de character's origin qui boucle un petit peu finalement avec le jeu vidéo que j'ai trouvé génialissime. Tu le vois venir petit à petit,
et qui boucle un peu avec Sonic 3 d'ailleurs, je crois. Enfin, il y a potentiellement une petite référence dans les, enfin, soit une référence à Sonic 3, soit une référence à Mario. On le voit au début du film d'ailleurs, mais bref, je ne spoilerai pas. Effectivement, ceux qui ont regardé le film comprendront très vite de quoi je parle. J'ai trouvé l'introduction du personnage et du monde de Sonic un petit peu dommage. Alors je sais pas à quel point tu es au fait du lore de Sonic, mais globalement ce film là fait une réécriture complète de ce que sont les Sonic originaux, en donnant un personnage différent qui s'occupe de Sonic étant enfant. Enfin, on lui invente une backstory qui a jamais véritablement existé auparavant. Ça m'a un petit peu gêné. Et c'est, je veux dire plein de trucs positifs par rapport à ce film-là, mais probablement le point faible par rapport à Sonic the Hedgehog, c'est qu'il reprend le poncif du héros inventé de jeux vidéo ou de dessins animés, du héros fictif qui apparaît dans le, entre guillemets, vrai monde. Là où, justement, Détective Pikachu te plongeait dans le monde de Pokémon. C'était quelqu'un qui vivait dans le monde de Pokémon. Je veux dire, on commence le film, il essaie de capturer un Piafabec, je crois.
C'est Osley.
Ou un Osley. on est directement dans le monde. On nous montre le monde de Pokémon avec des humains, avec du live action, c'est vrai. Mais il y a un parti pris de raconter une histoire entre guillemets interne au monde. Là, on a un pentagone. Là, on a un petit shérif de comté qui va vite avoir des responsabilités supplémentaires. On nous fait vraiment le buddy cop movie dans lequel il y a Sonic et Eggman. Et ça, je trouve que ce parti pris là. Il est bien pour vendre le film tel quel, mais au final, il respecte pas, enfin, il met pas tant en valeur que ça le monde du jeu. Le monde de Sonic, on le voit dans les 10 premières minutes et ensuite c'est fini.
Voilà, tu peux même dire qu'il est entièrement prétexte et on comprend même pas le. Enfin, moi, j'avoue, le coup de la chouette,
justification très Sonic Boom, tu sais. Oh, ouais. Quel est ce personnage qui sort de nulle part?
Ils ont même réussi à inventer un shitty friend dans le film. C'est quelque chose d'assez fou. Non, mais j'ai jamais vu ce personnage, effectivement.
Ah, c'est un shitty mother figure, pour le coup. Mais
exactement.
Oui.
Après, c'était sympa de revoir la petite figure des échidnés, par contre. Hein, on pense évidemment
Ça, c'est super malin que l'antagoniste au tout début du film, qu'on ne voit pas après, c'est des échidnés, donc des membres de l'espèce de Knuckles, mais tout en armuré.
Ouais, et ça permet de boucler justement avec la fin secrète, j'allais dire, avec la fin bonus, la séquence post-générique, voilà, pour être tout à fait exact, oui. Qui permet de se dire, tiens, ouverture vers une suite,
oui.
Laquelle je serais d'ailleurs très content et ça paraît presque logique en fait finalement.
Ah, vu le carton que ça a été en salle, oui, tu peux t'y attendre. Hein.
Oui, je trouvais ça dommage parce qu'effectivement, comme tu dis, ça n'intervient plus jamais du tout. Du coup, on se demande quelle était la pertinence, en fait, finalement, d'ajouter ça. À part pour le côté larmoyant et triste, et le côté, finalement, on va présenter l'inconséquence de Sonic, qui est quand même un trait de caractère assez partagé dans ces différentes représentations, en tout cas dans les animés, notamment. Mais sinon, c'est vrai que, bon... Tu l'oublies complètement après dans le film, ça n'a aucun intérêt.
Et paradoxalement, un point très positif toujours quand on parle d'une adaptation d'une licence qui existe et qui a un certain nombre de points communs, c'est l'absence des émeraudes du chaos. Les émeraudes du chaos qui sont pourtant vues comme cette ressource à laquelle justement Robotnik veut atteindre la possession pour pouvoir dominer le monde, avoir une source d'énergie incroyable, etc., n'apparaissent absolument pas dans ce film, et je trouve que c'est positif parce qu'il ne tombe pas dans un autre poncif d'adaptation, par exemple de jeux vidéo, qui est d'en mettre un maximum, de faire un gavage de références ou de plot devices qui sont eux-mêmes repris du matériau source, en l'occurrence du jeu vidéo, histoire de dire aux fans, allez, regarde, 1-1, on l'a mis 1-1. Je trouve au contraire que le film se permet des références plus subtiles, de manière plus ponctuelle, et les rend beaucoup plus digestes. Par exemple, t'entends John Baptiste, qui est le pianiste du Late Show de Stephen Colbert, reprendre Green Hill vers la fin du film, le thème de Green Hill. Le nom de la ville dans laquelle se passe une bonne partie de l'action est également une référence. Je crois que c'est Green Hill aussi.
C'est Green Hill aussi.
La musique que tu entends quand petit Sonic batifole dans le Green Hill du jeu vidéo, c'est la musique du trailer de Sonic Mania. Et ça, en référence aux fans, mettre la musique du trailer du meilleur fichu jeu Sonic des 10 dernières années, ça, c'est un clin d'œil d'amour qui est vastement apprécié. Quand je l'ai entendu plutôt, je me suis dit, tiens, ça doit pas être innocent. Quelqu'un a dû leur dire que ça va faire plaisir vraiment aux fans hardcore. Et ils sont bien conseillés sur ce coup-là. Ils sont bien encadrés.
Après, tu parlais des émeraudes du chaos. Je pense que pour le coup, alors effectivement, déjà, ils ont évité un autre poncif d'adaptation de jeux vidéo. C'est, on va les récupérer, les 7 machins. On va faire le tour du monde et 7 trucs et machin. Et on fait presque des quêtes de jeux vidéo dans un film. Mais il y a de grandes chances qu'elles apparaissent quand même dans la suite. Si on suit une certaine logique, malgré tout, en termes d'univers, il y a quand même, enfin, la suite, on la voit presque se dessiner, en fait, finalement. Ce qui serait pas non plus forcément très désagréable, mais au moins, ils ont évité ce raccourci un petit peu facile dès le début.
Moi, je suis curieux. Là, pour l'instant, t'allais sur les points positifs, sur ce qui t'a plu dans le film. Je sais pas s'il t'en reste, mais je serais aussi curieux de t'entendre sur ce qui a pu te décevoir ou te déplaire dans ce film.
Quand même des petits points pour nuancer. Tu parlais justement du fait des acteurs de la VO. On l'a vu en VO. Et heureusement, ouais, parce que je n'ai pas du tout. Alors, j'ai pas
qui
vu
a
en
fait
VF.
Le doublage, c'est vrai, ça.
Mais Malik Bentala en voix de Sonic, ça ne marchait absolument pas dans la bande-annonce, dans les extraits que j'ai vus. Ça ne colle pas du tout avec la voix de Sonic à laquelle on est habitué. En fait, je sais pas, c'est parce que je suis habitué à Sonic un petit peu, voilà, un petit peu pétulant, un petit peu fort en gueule. Ouais, voilà, Sonic, quoi. Je peux pas l'imaginer autrement, et en tout cas, il est exactement comme ça en plus dans la VO. Il a cette voix-là, il a ce style-là, comme oui, tu le disais, c'est exactement ça. Et la voix de Malik Bentala en français, ça ressemble pas du tout à ça. Ça fait presque un Sonic un peu victime finalement. Et je sais pas, ça sort complètement du personnage. J'ai pas trop compris ce choix de voix pour l'AVF. Enfin, je pense malheureusement que j'ai compris, c'est-à-dire il nous fallait un nom pour pouvoir faire le film. peut-être pas forcément le plus adapté en termes de comédien, donc je pense que c'est un petit point noir de l'AVF. Et sinon, alors je trouve le film extrêmement bien rythmé, sauf un petit ventre mou, je dirais, au début du deuxième tiers. Vraiment, je l'ai identifié à ce moment-là. C'est-à-dire que t'arrives dans une scène cliché, une scène obligée finalement dans ce type de film, c'est la scène de baston dans un bar. et tout ce qui se passe avant cette scène de baston, c'est le début en fait de la fuite, sans trop en dire, mais voilà, le personnage fuit et ils arrivent forcément à la scène de baston parce qu'il y en a un des deux qui fait le lourdingue et ça déclenche une baston. Cette scène-là est un petit peu lourde au début et tu dis vraiment c'est un poncif quoi, on l'a déjà vu mille fois dans le film, et là il te le retourne.
Ouais.
Exactement à ce moment-là, c'est là où je me dis, ah, quand même, ils sont assez forts. Je m'attendais à ce que ce soit une scène de baston chiante. Mais la scène en elle-même, c'est-à-dire qu'ils te la font à la vitesse à laquelle vit Sonic, donc c'est-à-dire en accéléré. Et donc, tout le monde est figé. Et là, il te fait un truc qui dure très longtemps, d'ailleurs, dans le film, pour faire, enfin, mille conneries, évidemment. Et après, petit clap et ça revient à la vitesse normale. Et là, tout s'enchaîne en 3 secondes et tu comprends tout, en fait, ce qui vient de mettre en place. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien, en fait, même musicalement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des énormes points forts du film, c'est que la bande son, les musiques, c'est juste, c'est hallucinant, quoi. Rien que le début sur du Queen, formidable.
Ils ont une chance sur ce film-là particulièrement, c'est que certes, ils se sont beaucoup appuyés sur de la musique commerciale, connue, top of the pop ou top des classements en tant que tel, mais ils ont fait un bon choix. Généralement, quand tu fais un film dans le genre et que tu cales juste des chansons qui sont un peu à la mode pour faire ça, c'est la chanson punchy, ça c'est la chanson triste, etc. Ça sonne un petit peu, ça sonne un petit peu opportuniste. Ouais. De façon, j'ai pioché sur énergie ce qui tournait. Là, il y a quand même une approche. Je veux dire, piocher la chanson qui pioche chez Queen en intro, c'est pas innocent. Parce qu'elle a un impact culturel, elle a un rapport avec le personnage même de Sonic, son attitude, etc. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillé avec ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Musicalement, certes, il n'y a peut-être pas beaucoup de clins d'œil aux jeux vidéo sur ce point-là, mais les choix qui ont été faits dans cette marge de manœuvre-là ont été bons.
Bah, j'ai trouvé ça bien, justement, qu'ils sortent un petit peu des musiques du jeu pour mettre de la vraie pop culture et des vraies chansons voilà, qui disent quelque chose, qui racontent quelque chose. Tu vois que c'est pas qu'une adaptation de jeu vidéo, en fait. Ils ont fait un vrai film. Et ça, c'est vraiment super agréable. J'ai vraiment adoré. Et un autre point négatif aussi, c'est la course-poursuite finale dans les rues de San Francisco. Enfin, pas exactement finale. Alors, je sais pas pourquoi, il y a un effet extrêmement étrange. Tu as l'impression, et c'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs, mais toutes les voitures sont à l'arrêt. Je sais pas si c'est pour renforcer l'impression de vitesse justement de Sonic et Robotnik, mais ça fait exactement l'inverse en fait.
Mais en fait, ils ont fini le film en simulant ça sur une Dreamcast, ce qui fait qu'ils avaient pas assez de process pour faire tourner les voitures à côté.
Ça fait extrêmement bizarre. Et puis tu vois pas d'habitants et tout. T'as l'impression que la ville est déjà confinée. C'est déjà coronavirus déjà à San Francisco.
C'est peut-être pour ça que j'ai pas tiqué justement. Je me suis dit bah c'est normal, geste barrière.
Ah non, moi ça m'a un peu déçu parce que c'est quand même censé être un climax quelque part. Mais sinon, j'ai trouvé le rythme extrêmement bien maîtrisé et évidemment, alors le générique de fin, le générique de fin est formidable. J'avais adoré celui Détective Pikachu.
Oui.
Suite Sonic, c'est son pendant Sonic, et c'est extrêmement bien fait. Et voilà, c'est, je l'ai au moins autant kiffé que Détective Pikachu.
Alors, comme tant qu'on est à parler des crédits, je me permets de dire, t'as deux séquences de crédits, justement, t'as la scène post-crédit qui est en fait en sandwich, parce que t'as les crédits généraux, sur fond noir, ouais, très sobre. Et ceux-là, toute la police, c'est du Futura Bold Italique. En bref, c'est la police de Canal+. Et quand je vois les crédits commencer à monter, je fais, mais je connais cette police. Et du coup, tu vois tout écrit en façon Canal+. Tu fais au moins, il débarque quand Carl Zero, qu'est-ce qui se passe? En bref, ça m'a fait rire sur le moment. Tu t'allais dire?
Non, j'ai juste que c'était, en tout cas, les crédits post scène bonus sont vraiment, enfin, t'as envie de jouer dans ce jeu là en fait, enfin clairement c'est juste parfait. Enfin voilà, une très très belle surprise. Je m'y attendais vraiment pas au vu de la catastrophe que ça avait l'air d'être avant. Je suis vraiment très content du nouveau look de Sonic parce que ça marche vraiment super bien. Ouais. Et tu vois même pas qu'il a été relooké, parce que tu te dis ils l'ont fait en fonction, enfin ils ont tourné en fonction du premier style de Sonic. Ils ont dû adapter quand même malgré tout certaines scènes, et l'intégration est quasi parfaite. Il y a juste une fois justement dans la scène de la baston dans le bar où tu vois que les yeux des acteurs, là ça pêche un petit peu, mais sinon tout le reste du temps, et puis l'humour quoi, les blagues, moi les lignes de Sonic, mais je c'est juste formidable à chaque instant quoi.
Le moment du film qui m'a fait le plus rire, c'est quand l'ami humain de Sonic voit un énième robot de Robotnik débarquer et écrit quoi, il y en a encore un, comment est-ce qu'il paye pour tout ça,
puis t'as hélico,
et derrière, juste derrière, t'as Robotnik qui répond, bon il l'entend pas, mais il espionne, donc il répond à haute voix, t'as Robotnik qui répond, est-ce que vous vous demandez où partaient les dollars de vos impôts? J'ai trouvé cette réplique, mais enfin c'est con, mais ça fonctionne très bien.
Et puis même parfois l'humour très ras des pâquerettes, il faut le dire, genre c'est très con, Sonic qui dit ah mais je comprends, t'inquiète, je dirai rien, je parle plus de la soirée et tout. T'as la serveuse qui arrive, alors qu'est-ce que je vous sers? Alors moi je prends ça, et puis il part pour 10 minutes de monologue et tout. Enfin, et tu vois l'autre mec qui dit mais t'es con, tu vas dire que c'est débile, c'est entièrement débile, mais il y a une énorme sincérité du personnage et c'est vraiment le Sonic qu'on connaît en fait finalement. Et non, je trouve que c'est une magnifique déclaration d'amour au personnage. On va dire peut-être qu'il y a un petit peu de choses un peu forcées. La petite amie, clairement, c'est le personnage classique de film. Le sidekick qui
n'est là que pour un tiers du film, d'ailleurs.
Voilà,
c'est très
donc qu'on fait disparaître au début, qu'on fait revenir, et voilà. Mais
bah comme ça, elle n'est pas en danger quand il se passe un truc grave dans la ville. Enfin, c'est très téléphoné. Hein.
Ouais, ça aurait pu être mieux intégré. J'espère que dans la suite, s'ils gardent ces personnages-là, il faut qu'ils intègrent ça un petit peu mieux. Il y a deux trois choses qui sont un petit peu mises au chausse-pied, mais franchement ça passe tout seul. J'ai pris en pleine figure et j'étais vraiment très content justement. Peut-être que c'est aussi dû au fait que j'entendais rien, que ça m'a autant plu. Mais tant mieux quoi, écoute, tant mieux.
C'est un bon petit film popcorn. Vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre, hein, il faut être clair, mais c'est un bon petit film popcorn à se faire comme ça une soirée. J'ai pas vu le temps passer, et pour un film d'une heure et demie, c'est un joli petit compliment. D'ailleurs, je fais aussi la parenthèse, c'est pas un film qui fait deux plombes.
De
voir une licence pop culture ne pas s'asseoir sur les spectateurs et dire regarde, je fais deux heures et demie, cof cof Star Wars, cof cof, même si j'ai pas mal apprécié Star Wars en général sur cette trilogie, mais c'est un autre sujet. Je trouve ça agréable également. Je trouve également agréable de dire voilà, on vise une certaine durée, on va pas plus loin, on n'en fait pas des mille et des cents juste pour rationaliser un budget, et ça c'est bien aussi. Bon, eh ben écoute, c'est marrant parce que quand on en parlait au départ, les premiers trailers, etc., on était prêt à le hate watch et à en dire beaucoup de mal. Et au final, ils se sont bien débrouillés. Puis on attend une suite, du coup, maintenant. Hein,
complètement.
Les studios chez Sony, allez-y, on veut la suite. Très bien. Eh ben la suite dans l'émission, c'est complètement autre chose. Puisqu'on parle d'une licence Sega tout à l'heure à une console Microsoft aujourd'hui, puisque je me suis un petit peu relancé dans deux jeux, The Orange Box et Portal 2 sur Xbox One.
Alors, c'est des jeux cultes dont on a déjà entendu beaucoup parler, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial, finalement?
Alors, le point commun numéro 1, c'est que ça provient de chez Valve, les développeurs créateurs des licences Half-Life, Team Fortress, même si à la base, c'était un mode qui a ensuite été réintégré chez Valve avec la sortie de Team Fortress 2 en 2007, qui a vraiment marqué la prise complète de contrôle de Valve sur la licence, et également Portal, à la base un projet étudiant qui s'appelait Narbacular Drop. Là aussi, le projet étudiant a été avalé par Valve pour en faire une licence maison et pour en faire des employés maison aussi. Qu'est-ce que ça a de spécial plus particulièrement? Les auditrices et auditeurs qui nous écoutent se diront peut-être, mais de quoi ils parlent, Yann? Orangebox et Portal 2, c'est jamais sorti sur Xbox One. Non, c'était sorti sur Xbox 360, c'était également sorti évidemment sur PC, qui est un peu la plateforme de base, la plateforme reine pour les jeux Valve, puisque à la base, Valve était vraiment un développeur PC, et sur PlayStation 3. Mais à la différence de Sony, Microsoft permet la rétrocompatibilité. Et sur Xbox.com, à la différence de depuis votre Xbox One, vous pouvez toujours acheter des jeux Xbox 360 en les commandant en ligne. C'était d'ailleurs la question que tu aurais eue tout à l'heure, mon cher Lou, c'était comment faire pour les récupérer,
bah oui,
alors que les disques ne se vendent plus. Bah voilà, c'est tout simple. Vous allez sur Xbox.com, vous insistez un petit peu, vous cherchez le nom, The Orange Box, Portal 2, et à force, on va vous dire « Ok, tu peux les acheter ». Et ensuite, vous pouvez les télécharger sur votre Xbox One, alors que le Marketplace Xbox, la boutique en ligne Xbox, depuis votre Xbox One, ne vous permet pas de le faire. C'est dommage, mais voilà, ça marche quand même si on insiste via donc le site internet. Et juste pour préciser également, quand je dis The Orange Box était une sorte de compilation qui contient Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1, Half-Life 2 épisode 2, qui sont les deux suites épisodiques de Half-Life 2, Team Fortress 2, qui est un jeu multijoueur donc FPS, en mode capturer le drapeau, ou attaque contre défense, enfin typique des FPS multijoueurs, et enfin le premier Portal. Donc en gros, si vous prenez ces deux items-là sur le store Microsoft, Orange Box et Portal 2, vous êtes à jour quasiment sur les jeux Half-Life, à part justement notre petit Half-Life Alyx qui est sorti en VR il y a quelques jours. Et puis il vous manquera également deux trois petites choses du côté du premier Half-Life, mais globalement vous avez le gros du catalogue récent de Valve sur votre machine, parce qu'il est vrai que Valve a assez peu sorti de jeux, et notamment de jeux un joueur par la suite. C'était leur choix.
Et avec l'arrivée de Half-Life Alyx, c'est oui, le moment idéal un petit peu pour refaire ces épisodes-là. J'imagine que c'est aussi pour ça que tu t'es replongé dedans, finalement.
Et pour les faire sur console, exactement. J'avais envie de le faire dans ce contexte-là. Moi, j'ai des machines qui sont pas très puissantes aujourd'hui, comme PC, ou plutôt pour le coup comme Mac, qui sont branchées. J'avais envie de tester ça. J'avais envie de voir ce que ça donnait, sachant que j'avais jamais joué à l'Orange Box qui était sorti sur console. Ouais. En soi, les jeux de l'Orange Box aujourd'hui, si vous les avez sur Steam, vous achetez plus l'Orange Box, vous achetez les jeux à l'unité, qui sont pas très chers, et vous les récupérez comme ça. Alors, je les ai un petit peu tous testés. En ce qui concerne, sur l'Orange Box, les jeux de la série Half-Life, ça tourne pas mal. C'est vraiment les jeux les plus fluides et ceux qui ont le moins vieilli du lot d'un point de vue purement technique. Mais ce qui est intéressant, et c'est valable pour toute l'Orange Box, c'est qu'elle a pas beaucoup reçu de mises à jour. Et vous faites le distinguo entre le Half-Life 2 d'aujourd'hui, qui a été pas mal patché, qui a pas mal changé depuis la sortie de l'Orange Box, et cette version-là, qui a eu quelques mises à jour, mais au final, ça s'est arrêté assez rapidement. Bah, vous avez une version un petit peu arrêtée dans le temps d'Half-Life 2, d'Half-Life 2 épisode 1, d'Half-Life 2 épisode 2. Et c'est étonnant de voir ça. Il y a évidemment des vieux bugs, des vieux glitchs qui subsistent. Portal, c'est un cas un petit peu à part. Portal, on rappelle la mécanique de gameplay qui est inclue dans le nom d'ailleurs, hein, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait ou ne l'auraient pas vu. Ça date un petit peu maintenant, ce jeu, mais qui est quand même assez culte. Portal, donc, vous êtes dans un environnement en première personne, mais au lieu de tirer sur des ennemis, vous avez un flingue qui vous permet d'installer donc des portails que vous pouvez traverser et que les objets peuvent également traverser de l'un à l'autre. Donc ça vous permet de casser un petit peu la géométrie, en quelque sorte, hein, d'accéder à des endroits qui auraient été normalement inaccessibles, d'y faire traverser des objets, d'y faire tomber des objets à travers, ce genre de choses. Là, partout où vous pouvez mettre une surface à portail, vous pouvez en mettre un, et du coup, ça vous permet de faire énormément de choses et de résoudre des puzzles assez compliqués. Et donc, cette technologie-là, entre guillemets, qui a été rajoutée au moteur des jeux Half-Life, le moteur Source, bah, ça se voit que c'est un petit peu poussif pour l'époque, ça déconne un petit peu. C'est pas une expérience de jeu extrêmement fluide aujourd'hui. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'on peut retrouver également sur le store de Microsoft, toujours sur Xbox.com, Portal Still Alive, qui est une version légèrement plus à jour de Portal avec des niveaux en plus qui avait été sorti en standalone sur le Xbox Live Arcade. Donc c'est également une option si vous souhaitez jouer à ce jeu-là à part. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Portal 2, par contre, alors certes, encore une fois, c'est la Xbox One qui émule une Xbox 360, donc on est au niveau de la machine de l'époque, et si vous faites tourner le jeu aujourd'hui sur un PC de guerre, ce sera plus performant. Mais franchement, c'est une très bonne expérience de jouer à Portal 2, c'est franchement confortable. Si vous pouvez jouer à la manette, ou si vous souhaitez jouer à la manette, c'est une très bonne façon de se faire le jeu. La seule chose qui manque, c'est le workshop qui permet de créer et de jouer au niveau de la communauté. Il n'y a pas d'éditeur de niveau dans cette version console. Ça, c'est la différence fondamentale. Pour le reste, le mode solo et le mode co-op avec la campagne qui a été faite par Valve, elles sont disponibles et c'est toujours un très très bon jeu à faire et à partager avec un ami, une amie. Donc je vous le recommande chaudement. Et puis cette suite-là, non seulement elle ajoute des couches et des couches de scénarios, d'ambiance, visuellement elle va chercher beaucoup plus loin que les atmosphères très dépouillées du premier Portal. L'écriture est excellente, que ce soit en anglais ou en français, le doublage également, même si évidemment chacun peut avoir ses préférences en termes de voix. L'acteur Stephen Merchant, que certains connaissent dans la version britannique de The Office, officie justement dans la voix de Whitley en anglais. Et ça, pour les fans évidemment, on ne peut pas manquer sa performance à lui. Je refais un petit crochet du côté de l'Orange Box. Dedans, je l'ai dit, il y a Team Fortress 2. Contrairement à la version PS3 où des gens ont réussi à faire survivre le mode online, ce n'est pas le cas. J'ai testé encore avec le Gold. Là, il y a personne. Là, il y a absolument personne. Vous pouvez faire une petite partie en LAN et être le seul joueur dedans et être très très triste et très esselé. Mais c'est bien la seule possibilité. Voilà, si vous arrivez à mettre vos Xbox One en LAN, vous pourrez jouer. Ou une Xbox One en LAN avec une 360, parce que ça marcherait, figurez-vous. Ça a été démontré. Et encore une fois, ça prouve à quel point Microsoft prend la rétrocompatibilité au sérieux. En définitive, The Orange Box et Portal 2 sur Xbox One. Portal 2, feu vert complet. Si vous n'avez pas envie d'avoir la meilleure expérience en termes visuels, si vous avez un PC de course sous la main, ça fait vraiment le job. La seule chose qui va vous manquer, je le disais, c'est les niveaux créés par la communauté. Et puis The Orange Box, plus pour les jeux Half-Life que pour les jeux Portal, mais ils sont également excellents. Et dans tous les cas, ces jeux-là, ils ont énormément d'âme, ils ont énormément d'inventivité. Moi, je me refais par ce biais la Portal 1 et Portal 2, et je peux te dire, Lou, fin, ces jeux-là, ils sont d'une inventivité. J'ai remarqué l'autre jour sur Steam que j'avais joué 50 heures à Portal 2, déjà ces dernières années. Il était sorti en 2011, si je dis pas de bêtises. Et ben écoute, je suis en train de le refaire maintenant, et c'est comme... Je sais pas, c'est comme retrouver un bon vieux bouquin dont t'avais oublié certains plots twists. Alors certes, le scénario, je m'en souviens un petit peu par cœur, mais vraiment, les énigmes, si vous avez pas fait le jeu depuis, vous les avez pas toutes en tête, et c'est vraiment chouette de se retravailler un petit peu tout ça avec GLaDOS, avec Whitley, avec toute la petite équipe de personnages. C'est vraiment marrant. Et j'encourage les gens, plus en général, à aller farfouiller sur Xbox.com s'il y a des vieux jeux 360 ou même Xbox première génération qu'ils n'ont jamais fait. On peut avoir des surprises. Je crois que sur 360, il y a autour de 300 jeux qui peuvent être retrouvés de cette manière-là. Donc certes, évidemment, Contre-Espèce, sonnante et trébuchante, mais il y a des références type Rayman Origins, par exemple, qui est difficile à retrouver autrement maintenant. Sonic Generation, qui est certes en 30 images par seconde, c'est pas hyper c'est pas la meilleure expérience dans le domaine, mais ça permet quand même de remettre la main sur le jeu. Et si vous avez une Xbox One et rien d'autre, c'est quand même un super jeu. Bref, il y a plein de trucs qui traînent sur Xbox 360, qui était quand même la console de sa génération.
Oui,
on peut le dire. Et ouais, qui d'accord. Du coup, en termes de catalogue, a beaucoup beaucoup à offrir encore aujourd'hui. Je trouve qu'il y a énormément de jeux qui ont bien vieilli, et notamment Portal 2, et si vous êtes curieux des jeux Half-Life, The Orange Box font partie du lot. Donc voilà, je voulais attirer votre attention dessus parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, Valve le met pas du tout en avant, que c'est encore disponible. Ah, un dernier point pour l'histoire. Vivrange Box, Electronic Arts avait aidé au développement et avait collaboré. C'est une des dernières fois que Valve a bossé avec quelqu'un pour ce genre de projet-là. Les portages étaient bons, mais pas top. Selon Valve et aussi selon les critiques, quand les jeux étaient sortis à la toute base, ça a été patché un petit peu par la suite. Ce qui fait que Valve a ensuite repris les choses en main. Et pour le coup, Portal 2, c'était purement du job fait par Valve. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai l'impression. En tout cas, quand on s'appelle Valve. Voilà. Ben écoute, dans ce cas-là, on a parlé de Microsoft. Lou, je te propose qu'on se plonge maintenant dans le monde de Sony. Et on passe d'un aspect rétro à un aspect d'actu, puisque Sony a présenté la DualSense. Exit donc le nom de DualShock après 4 générations de consoles, certes avec des petits accros, puisque la DualShock c'était pas la première manette de la première PlayStation. On avait d'abord une manette qui n'avait pas de vibration, qui n'avait pas de stick à l'époque. Sur PlayStation 3, on avait commencé avec la 6-axis, puisqu'il y avait eu des petits problèmes, je crois, de droit et de bisbille avec une société qui contrôlait la technologie spécifique de vibration qui était utilisée, ou en tout cas il y avait des copyrights et des patentes qui se recouvraient un petit peu les unes les autres là-dessus. Et là donc, Sony sert ce qui avait été promis, c'est-à-dire une manette. Une manette un petit peu différente, nouveau nom, également des facultés dans les vibrations de feedback haptique, c'est-à-dire de donner des sensations un petit peu plus précises. Et également un nouveau design. Sur ce nouveau design, mon cher Lou, qu'est-ce que tu en penses quand tu as vu circuler tout cela? Je crois que c'était hier ou avant-hier quand on enregistre cet épisode.
Alors, j'ai beaucoup aimé la DualShock. Avant tout, je veux revenir là-dessus. On n'avait pas fait un top des nos manettes préférées à un moment.
Je ne crois pas. Mais
ça pourrait être un sujet intéressant de la cartouche. Maintenant que ça me vient en tête, la DualShock, c'est quand même une console, une manette qui m'a beaucoup. Non, c'était dans le top des consoles. On avait évoqué les manettes.
On avait évoqué les manettes un peu détournées.
Mais j'aimais beaucoup la DualShock quand elle est sortie, vraiment je trouvais son feeling extrêmement agréable, son design aussi, et je l'avais adoré, hein. J'adorais la PlayStation 1 et j'étais très content de la retrouver sur PlayStation 2. Et puis je trouvais que au bout d'un moment c'était vraiment se traîner un boulet quelque part, parce qu'elle avait pas évolué là où la manette de la Xbox 360, quand elle est arrivée, justement pour reparler de la 360, Le feeling, le plastique qui était utilisé, la forme, la façon dont tu la prenais en main et tout, enfin, tu voyais qu'elle avait quand même un cran d'avance. Enfin, elle était tellement agréable à prendre en main. Enfin, c'était formidable comme manette. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, elle a un petit peu vieilli, ma petite manette de PlayStation 1. Donc c'est bien qu'ils osent enfin un petit peu évoluer finalement pour proposer quelque chose d'un peu différent. Et j'aime beaucoup le look. Il y a un petit côté, je sais pas pourquoi ça me pensait au Stormtrooper, il y a un côté presque Star Wars en fait finalement dans cette manette. La couleur blanche n'y est certainement pas pour rien, mais déjà le côté bicolore m'a beaucoup plu. Il y a quelque chose de très élégant, très racé, et alors je sais pas pourquoi, mais ces images me donnent l'impression qu'il y a un toucher différent. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le plastique n'a pas... Déjà, c'est pas ce plastique brillant qu'on
voit un
bien.
Plastique rugueux sur le bas, sur la partie de dos de la manette. On voit que le plastique est rugueux. Alors, je tiens à préciser, les images qu'on a là, c'est, selon toute vraisemblance, des images de synthèse.
Hein. Oui.
On n'est pas en train de voir un prototype ou même un exemplaire de production. On est en train de voir, en gros, un render... donc un export basé sur une représentation en 3D qui doit nous transmettre justement ces informations-là, notamment le fait que le haut de la manette, la partie vraiment de face, a l'air lisse et l'arrière est rugueux.
J'ai bon espoir justement de retrouver un plastique proche de celui de la 360, et c'est pas si anodin que ça la qualité du plastique, parce que je sais pas si tu l'as forcément, la manette pro de la Switch, j'imagine.
Je l'ai, effectivement. Elle a un peu la même forme, j'ai l'impression. C'est ce dont elle s'approche le plus.
Ouais, elle a une forme très très similaire, mais ce que je voulais évoquer, c'était simplement les espèces de petits pointillés, là, les petits points qu'il y a sur le côté de sur le grip, hein, sur l'accroche, je sais pas trop comment le dire en français.
La tranche, non?
Mais voilà, le fait que quand tu attrapes ça, quand tu as dans les mains, ça te fait une sensation quand même de... tu l'as bien en main en fait, et c'est extrêmement agréable. Et j'ai l'impression, en tout cas visuellement, que cette manette offre un plastique qui est plus agréable. Mais comme tu le dis, pour l'instant, ce n'est qu'un rendu de synthèse. Et on verra, évidemment, comme toujours, hein, une manette, c'est évidemment en main qu'on se rend compte un petit peu mieux. Sinon, elle ressemble forcément énormément à ce qu'on connaît déjà, parce que de toute façon, une manette ne va pas réinventer la manette, parce que quand elle le fait, ça marche pas forcément. Les gens sont aussi habitués à une certaine simplicité, à une certaine souplesse, et on le sait, les gens jouent aussi à plusieurs consoles, et c'est pratique quand même de pouvoir passer d'une manette à l'autre extrêmement facilement, et c'est pour ça qu'en général, les manettes restent assez semblables au final maintenant, et qu'on a l'impression qu'elles se copient toutes un petit peu. Je suis quand même toujours un petit peu sceptique sur la position des joysticks. C'est très très élégant d'avoir les joysticks au même endroit, mais c'est vrai que j'aime bien l'option Xbox et Nintendo avec le choix de mettre le joystick à la place de la croix. Je sais pas quel est ton point de vue sur cette question, toi.
Ça prend toujours un petit temps de d'adaptation. Il est vrai que je trouve ça confortable chez Microsoft et chez Nintendo. Je dois dire, je pêche par un point qui est que je joue en ce moment beaucoup plus sur console Nintendo et Microsoft que sur console Sony.
Oui.
J'ai les trois, mais en ce moment, mon temps est beaucoup plus passé sur la Xbox que sur la PlayStation. Et du coup, je dois me réhabituer et je pense que j'ai un biais de ce côté-là. Je trouve ça moins pratique, mais je trouve ça aussi moins pratique parce que je l'utilise moins. Un point qui me gêne plus, je dirais, c'est pas avec la DualShock 4, pour le coup, avec la manette de la PlayStation 4, et c'est potentiellement ce que cette manette va régler. C'est cette impression sur la DualShock 4 que mes mains sont trop grandes pour la manette. Pourtant, j'ai pas des mains énormes, mais je trouve que...
Tu es grand quand même.
Pour compléter un petit peu ce que tu disais, la manette Xbox One, et surtout la manette Xbox One S, donc la révision de la manette Xbox One, et la manette Switch Pro, remplit bien la main, entre guillemets. Et vraiment, on atteint les boutons de manière confortable. Là, j'ai vraiment l'impression de déborder un petit peu des boutons et d'être dans une situation légèrement inconfortable, le pouce qui va un petit peu trop loin par rapport aux quatre directions, etc., etc. Et qui en même temps, vis-à-vis du pad central, est là pour le coup trop loin. Un point faible peut-être justement, c'est ce pad central. Qui est toujours donc le pavé tactile, qui cette fois-ci fusionne avec la lumière, avec la light bar, donc qui permet à la fois de signifier un petit peu des choses aux joueurs avec une couleur différente, et également on l'imagine d'ajouter des compatibilités avec un PSVR de nouvelle génération, même si c'est pas encore précisément dit à ce stade. Je trouve que c'était pas une réussite du pad PS4 et de continuer avec le touchpad, pardon. Je sais pas, je trouve pas ça hyper ergonomique, je trouve pas ça très utile. Il y a un petit effet la première semaine que tu utilises, oh là là, oui. Je peux naviguer avec le clavier, etc. En vrai, c'est pas ergonomique, c'est pas très utile. Ça rappelle un petit peu quand tu essayais de contrôler tes jeux DS et que tu simulais un stick dans les premières années des jeux DS. Tu simulais un stick avec l'écran tactile.
Mario 64.
C'est pas le même usage, mais je trouve que c'est tout aussi gadget.
Ouais, je vois. Il y a un autre truc que je voulais souligner, c'était le fait qu'il y ait que deux boutons, du coup, sur les boutons haut, au-delà de la croix et des quatre petits boutons croix, croix, carré, rond, rond, rond et triangle, carré et triangle.
Oui.
Référence à la publicité, pour ceux qui ont connu.
Oui.
C'est bien, parce que j'ai un petit problème. Je dirais le plus gros défaut de la manette Switch Pro, pour moi, c'est qu'il y ait deux boutons de chaque côté à côté, enfin, plus, moins, home et le rond de la prise de photo.
Alors, c'est une vraie question. Je crois que le logo PlayStation est un bouton.
Oui, mais il est central, tu vois, il est pas au même endroit. Moi, le
problème...
Et en dessous,
t'as le bouton mute du micro, qui est une nouveauté de cette manette.
Pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de la localisation sur ce bouton PlayStation. C'est vraiment juste que sur la manette Pro de la Switch, tu as le bouton Home et le bouton Plus qui sont juste à côté. Et une fois sur deux, je me plante. je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un problème et qui n'arrive pas à retenir 6 boutons. Je dois être même au max 5 dans ma tête, peut-être parce que j'ai 5 doigts, j'en sais rien. Mais j'arrive jamais à savoir si c'est le plus qui est en haut et le home en dessous. Enfin, j'ai du mal. C'est vraiment un bouton sur lequel j'ai du mal. Et là, je trouve que c'est plus clair de garder un petit bouton au-dessus. Ça me paraît un peu plus simple. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à la prise en main, mais de toute façon, c'est... j'ai oublié son nom à chaque fois, je voulais te remonter. C'est Hideaki Nishino qui le dit lui-même. Il considère en fait, ils veulent, c'est leur objectif, c'est l'objectif de chacun, mais en tout cas, il le réaffirme, qu'ils veulent cette manette comme un prolongement finalement de la personne, du joueur.
Oui.
Ils doivent vraiment considérer ça.
Ah bah.
Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui parce que pour moi, il avait quand même perdu de vue quand il continuait à faire cette DualShock, justement. Qui, pour moi, c'était plus un clin d'œil, finalement, à la marque, mais pas forcément un bon choix ergonomique. Donc là, ils ont réussi à soulever la table, à renverser la table, et à partir sur quelque chose de voilà, on replanche à zéro, on fait pas non plus un truc qui est incroyable, mais qui va être pour moi quand même beaucoup plus cohérent. Mais elle me donne vraiment très envie de la prendre en main. C'est incroyable. Il y a une espèce d'appel sur ce design, ces rondeurs et en même temps son côté très moderne. Je suis agréablement surpris, en tout cas.
Pour refermer le chapitre esthétique et avant de parler des fonctionnalités, il y a deux points que je voulais soulever. Le premier, tu disais tout à l'heure que tu aimes bien l'équilibre des deux couleurs. Je trouve que l'idée d'en faire deux couleurs est pas mal, mais je sais pas pourquoi, géométriquement, elle me gêne. Et je parle pas vraiment de la forme de la console, mais de la répartition des couleurs sur la manette. Je la trouve laide un petit peu, et je pense que ça s'arrangera avec des coloris alternatifs. Mais je pense que
t'aurais voulu peut-être plus d'équilibre.
Je trouve
au niveau
que ce noir là est trop foncé pour ce blond un petit peu cassé qu'il y a à côté. Je trouve que d'un côté tu as un blanc qui tire pas mal sur le gris, et de l'autre côté t'as un noir qui est vraiment
froid,
genre
blanc en plus.
Paf, t'as un noir qui est par pitié, faisons disparaître un maximum de l'élargissement de cette manette. Et je trouve ce clash là un petit peu malheureux, au-delà de toutes les vannes qu'on a pu faire de tiens, ça ressemble un peu au blanc de Xbox depuis quelques années. Ça,
c'est un choix très particulier parce que c'est quand même un blanc très très froid. Il y a aussi un peu
très
de
clinique,
bleu
c'est
dans
vrai.
Ce blanc. Ouais, voilà.
C'est un blanc très clinique.
Mais moi, c'est ce que j'apprécie justement. Il y a un côté très racé, en fait. Je trouve que c'est ce qui donne aussi son côté très élégant.
Alors, ce qui m'a fait rire, et ça va clore le chapitre esthétique, je pense, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est que tout le monde a réagi en disant oh, mon Dieu, le bouton share a été remplacé par un bouton Create. Alors d'ailleurs, le symbole et le logo Create, c'est trois petits traits qui font genre oh, j'ai une idée, qui est assez rigolo.
C'est comme quand les villageois
dans Animal Crossing. Oui, exactement. C'est vraiment de l'émotion cartoon en un petit sigle de trois traits. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que le bouton Option est devenu un bouton menu sandwich. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que dès le départ, avoir appelé le bouton l'équivalent du bouton Start, hein, on peut le dire, ou du bouton Plus. De l'appeler option, je pense que c'était un petit peu cryptique, et en vrai quand tu voyais marqué option tu disais ah oui, l'équivalent de start. Tandis que là le bouton menu comme celui-ci, c'est évident qu'on parle des menus spécifiquement à un jeu, et qu'ensuite si tu veux vraiment accéder au menu de la console, bah t'as le bouton PlayStation qui est littéralement ta porte d'entrée vers l'univers PlayStation. Qu'est-ce que c'est fort. Du côté des fonctionnalités maintenant, si tu le veux bien, j'ai ouvert ça parce que c'était clairement la chose qu'on savait, mais alors là pour le coup on le savait avant même les spécificités techniques qu'on a apprises sur la PlayStation 5 depuis. Je crois qu'on le sait depuis 2 ans maintenant qu'elle a des retours haptiques. Donc l'idée c'est des vibrations plus subtiles. Des vibrations plus subtiles qui peuvent donc être proposées au niveau du jeu et qui peuvent être rendues avec beaucoup plus de détails, ce qui permet, alors là c'est l'exemple qui est donné, dans un jeu de rallye par exemple, de sentir les pneus qui roulent sur du gravier.
Après, sur le même exemple, hein, mais justement je trouve que c'est on entend tellement parler maintenant du retour haptique que bon, c'est plus non plus
on en a un peu goûté, que ce soit dans le domaine de la VR ou avec les Joy-Con et le HD Rumble de Nintendo sur la Switch. Ça c'est un premier point, et on l'a d'ailleurs sur pas mal de smartphones. Vous prenez un iPhone par exemple, iPhone 7 ou suivant, ou même depuis les 6S, mais en tout cas 7 je suis sûr. Si vous faites une action toute simple comme par exemple afficher les dernières applications que vous avez ouvertes, ça vous fait une vibration, mais qui n'est pas une vibration type qui fait vibrer toute la table. Vous avez juste un petit nudge, un petit tapotis qui avait d'ailleurs été introduit chez Apple avec non pas l'iPhone mais avec l'Apple Watch, puisque l'idée était de donner une notification sensorielle à l'utilisateur d'une montre connectée sans pour autant que tout le monde l'entende, donc d'avoir une vibration qui soit extrêmement subtile et uniquement détectable par l'utilisateur lui-même de l'appareil qu'il a du coup autour de son poignet. Bah là c'est un petit peu la même idée, c'est d'avoir des retours un petit peu plus subtils. Mais ça on le savait déjà. Ce qu'on savait depuis un peu moins longtemps, c'est également les gâchettes. Alors le terme c'est adaptive triggers, donc les gâchettes qui s'adaptent un petit peu en fonction d'une certaine résistance qu'on veut leur donner. Par exemple dans un jeu où vous allez tirer à l'arc, c'est je crois l'exemple qu'il y a donné dans le post de blog de l'annonce de cette manette, l'idée de vous faire ressentir la résistance quand vous bandez l'arc et que vous êtes prêt à décocher. La batterie qui se recharge, évidemment, ça c'est un petit pied de nez à Microsoft qui pendant très longtemps est resté par défaut avec les piles et le kit Charge and Play, je crois, c'est ça le nom
pour le
kit de batterie, y compris sur Xbox One. Un micro intégré, bienvenue à l'époque de la Nintendo DS, bravo, ou à l'époque du Gamepad d'ailleurs, ça, c'est marrant. Et puis enfin, on le disait, donc la barre de lumière qui est désormais intégrée au touchpad. Je dirais, c'est un petit avantage, c'est un petit pas esthétique, mais c'est un grand pas pour la batterie potentiellement, parce que ça veut dire que ça ne dépensera pas autant, ou en tout cas que Sony souhaite dépenser plus de batterie sur d'autres fonctionnalités, dont les vibrations et les gâchettes avec le feeling spécifique à telle et telle action avec un petit peu de résistance, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas mettre une énorme lumière, une énorme source lumineuse constamment allumée, peu importe ce que tu fais. Sur ces fonctionnalités, là où est-ce qu'il y en a où tu les remarques et tu te dis tiens, ça, marginalement, ça pourra peut-être un petit peu faire la différence, comme le HD Rumble a un petit peu fait la différence pour Nintendo?
Non, j'y crois pas trop. Comme je te disais, c'est plutôt des choses qu'on a déjà évoquées. Finalement, c'est un peu comme le ray tracing. Dans 3 ans, plus personne ne dira que c'est un argument parce qu'on est tous tellement habitués, en fait, finalement, même le coup du microphone. Bon, bah, écoute, oui, bon, soit, c'est pas... Il y a rien qui me fait dire, waouh, c'est vraiment le truc qui...
À quoi servira un microphone, je me permets de t'interrompre, mais où littéralement, t'as une source de bruit juste à côté qui fait... Enfin, tu vas t'en servir quoi pour du streaming? On va entendre.
Il y en avait bien sur.
Il
y avait un microphone sur DS. Donc après.
Quel jeu
pas,
PS5? Enfin, je suis curieux de voir comment est-ce qu'on dans des jeux de consoles de salon on va t'intégrer le microphone
autrement, dans le menu.
Autrement que pour discuter. Ah, peut-être pour ça, c'est vrai.
Ça peut être intéressant, mais ça peut être. Enfin, je sais pas, mais aux développeurs de trouver des utilités, des utilisations un peu originales. Hein. Moi, j'aimerais bien, je sais pas, lancer des sorts en criant brasier dans Final Fantasy. Mais ouais, non, il y a rien qui m'a fait dire waouh, c'est la manette de demain. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on attend d'une manette qu'elle soit profondément révolutionnaire? Je veux dire, regarde la manette de l'Xbox One. Elle avait rien de révolutionnaire.
C'est
littéralement
vrai.
Rien du tout.
Elle avait même un gros bouton mal fichu qui est le bouton de partage qui est incompréhensible. Bon.
Ouais, enfin voilà, ils étaient très flous ces boutons et tout. Et puis elle était extrêmement basique, mais elle avait un très bon design, une bonne prise en main, des gâchettes intéressantes. Pareil pour la manette de la Switch Pro, hein, je veux dire, elle est vendue très très cher, mais... Elle a rien. Je crois que l'engouement sur la folie des manettes est un petit peu passé depuis qu'on a vu la Wii et surtout la Wii U, où là on s'est dit finalement un contrôleur avant tout, ça doit être un contrôleur et il doit être pratique, léger et facile à prendre en main. C'est pour ça que le coup de la tablette de la Wii U, je pense que ça a traumatisé tout le monde. Donc ils y vont un petit peu moins finalement, mais je trouve qu'elle embarque déjà pas mal de technologies, cette manette de PlayStation 5. Mais c'est suffisant. Après, tu vois, est-ce qu'elle va faire le café et tout? Enfin, faut pas trop en mettre, quoi, selon moi.
Bon, écoute, hein, en tout cas, ça, c'était du domaine de la news et de l'analyse de cette news. Donc, la DualSense, la manette de la PlayStation 5. On continue de s'approcher un petit peu du reveal du design de la PlayStation 5. Ça nous donne quelques indices à quoi elle ressemblera. On aura peut-être justement un design bicolore avec ses couleurs assez aseptisées, ce petit style un petit peu arrondi. J'ai hâte de voir ce que ça donnera et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast. En tout cas, en attendant, je te propose, mon cher Lou, de jeter nos deux pieds chacun droit dans la rumeur. Mais pas n'importe quelle rumeur, de la rumeur corroborée, puisque Video Game Chronicle, Eurogamer et d'autres médias ont recoupé avec des sources un petit peu différentes à chaque fois une rumeur qui est désormais insistante, selon laquelle Nintendo s'apprêterait probablement pour le 3, a fêté les 35 ans de Super Mario d'une manière bien particulière en ressortant les jeux 3D Mario de son catalogue, de manière un peu remasterisée peut-être, sur Nintendo Switch. On parle notamment donc de Super Mario 64, de Super Mario Sunshine, de Super Mario Galaxy qui ferait tous les trois partie d'une compilation. et qui serait visiblement traité comme une version un petit peu anniversaire, et d'autre part que Super Mario 3D World, donc le jeu de 2013 sorti sur Wii U, bénéficierait d'une version deluxe avec des niveaux supplémentaires. Voilà, c'est ce qu'on entend actuellement. Visiblement, il y aurait pas mal de choses qui seraient prévues pour cet anniversaire, y compris donc ces ports et ces versions un petit peu deluxe. J'aimerais savoir, Lou, ce que tu en penses, et de tous ces jeux-là, lesquels tu aimerais commencer en premier. Imaginons que tout ça vienne à être annoncé et à sortir le même jour. Tu commencerais par quoi? Tu jouerais à quoi?
Bah déjà, je veux dire que je veux y croire. Clairement, quand j'en ai entendu parler, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Et en même temps, c'est pas possible. Ce n'est ni plus ni moins que Super Mario All-Stars 2, finalement. C'est exactement ça. On a eu le All-Stars qui était sorti donc sur Super Nintendo avec les premiers Mario sur Nintendo, donc sur NES, refait, vraiment avec un vrai nouveau style graphique extrêmement bien réussi sur Super Nintendo. Il y avait même une version bonus avec Super Mario World d'ailleurs au Japon, et qui était ressorti aussi sur Wii hein, pour l'anniversaire. Je crois que c'était pour les 25 ans, il me semble, ouais.
Ce
Mario.
Ce qui est pour le coup intéressant quand on parle notamment de ces jeux 3D, c'est que les informations qui circulent, on ne parle pas d'un simple port, donc Mario 64 en 4 tiers avec vraiment la technique de l'époque, etc. Mais de véritables remasters, c'est-à-dire
bien
d'adapter
sûr,
un petit peu les jeux à la technologie d'aujourd'hui. Ce qui serait pour le coup un grand pas en avant pour ces jeux-là.
Mais comme ça a été le cas pour Mario All-Stars, hein, quand ils ont refait Super Mario Bros. 1
c'est
dedans,
vrai.
Il a été entièrement refait. Donc il n'y a rien d'étonnant en fait finalement. Ce qui est plus étonnant, c'est que c'est des jeux en 3D et c'est que c'est beaucoup plus de boulot en fait finalement.
C'est ça.
Mais ils l'ont quand même déjà fait sur Mario 64 quand il est passé sur la DS.
Oui, dans une version un petit peu augmentée et changée.
Il y avait beaucoup plus d'étoiles, mais même graphiquement,
plus, ouais.
ça changeait beaucoup en fait graphiquement. Donc moi je dis pourquoi pas. Ils ont bien passé Zelda aussi, Ocarina of Time et Majora à la moulinette sur 3DS avec un très très beau résultat. Là aussi, le jeu devenait incroyable par rapport à l'original. Et ça me paraît pas forcément aussi peu crédible que ça du coup. Et je suis très content parce que Sunshine, ça fait un moment que j'ai envie de le refaire. J'ai refait 64 il y a pas très longtemps pour ma chaîne. Galaxy aussi, j'aimerais vraiment le refaire. Mais plus Sunshine finalement parce que il était très atypique dans son approche.
Et la vraie curiosité, ouais, c'est comment Sunshine, qui est un petit peu le petit canard, le vilain petit canard de la lignée, oui, des Mario en 3D, comparé aux autres, peut être, je vais pas dire sauvé, mais en tout cas amélioré. Ça, c'est une vraie question. Quel fixe en termes de caméra ou peut-être même d'objectifs qui sont parfois un petit peu répétitifs ou trop exigeants comme la quête des pièces bleues pour celles et ceux à qui ça parlera. Comment est-ce que ça peut potentiellement être récupéré, corrigé par le Nintendo de 2020 ou de 2019 dépendant des temps de production? C'est une question que je me pose et j'espère qu'ils oseront retoucher à ça, même si là pour le coup on irait assez loin.
Ah, moi j'aimerais bien justement qu'ils gardent ce concept, le concept original, parce que c'est vraiment très différenciant finalement des autres. Mario 64 qui était un petit laboratoire à idées et classique dans son approche. Galaxy qui était beaucoup plus linéaire en un sens, hein, c'était vraiment point A vers point B en général. Et cette exploration folle et ces niveaux un peu plus technique, avec cette approche plus complexe justement due au jetpack dans Sunshine. Je trouve que c'est très très bien d'apporter tout ça en complément plus de Mario Odyssey qui finalement pioche un petit peu partout des idées et les mélange de manière extrêmement réussie. Donc je trouve que c'est vraiment une excellente idée qui est pas déconnante pour revenir sur la crédibilité finalement de la rumeur, parce que tu vois aussi l'annonce de Nintendo avec Lego, hein, les 7 Lego qui vont sortir en très grand nombre, qui sont prévus, ils sont très très originaux aussi pour le coup, mais qui sont destinés plutôt à un public un petit peu jeune malheureusement. Moi j'attendais vraiment mon château de Peach en modular, mais bon, ce n'est pas
grave. Ah oui, non là.
Mais aussi par exemple là tout récemment en début de semaine, c'était Uniqlo qui annonçait sa collection avec Nintendo, donc les t-shirts. Je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet, en tout cas ça s'annonce plutôt comme ça. On se dit, bon, 35 ans, pourquoi fêter les 35 ans en fait au final? C'est pas un nombre qui tombe pile, mais apparemment ils ont décidé que c'était le bon moment. C'est aussi un bon moment commercialement parce que la Switch cartonne. Des remasters, c'est pas s'il y a de plus difficile à faire non plus, hein. C'est pas développer un nouveau jeu.
Et dans 5 ans, ils seront pas du tout dans la même situation, donc autant en profiter maintenant, hein.
Exactement. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment. Et c'est bien aussi de redonner une chance à ces jeux 3D, parce qu'on le sait, les jeux Mario 3D se vendent moins que les jeux 2D. Ils rencontrent du succès, certes, mais beaucoup moins. Et là, d'être sur une console aussi populaire, ben, ça peut permettre à plein de gens qui les ont pas fait de pouvoir les faire. Et vraiment redonner de la dimension à Mario 64, mais je ne rêve que de ça, parce qu'il est vraiment tellement bien, mais j'aimerais... Tu sais que je préfère Banjo-Kazooie, mais parce qu'il est plus fouillé, il est arrivé après, donc ils ont le temps de peaufiner la recette, d'ajouter plein de choses, des personnages, etc. Enfin, des choses qu'il n'y aura pas dans un remaster de Mario 64, mais de pouvoir densifier le jeu comme il le mérite... Ce serait vraiment très intéressant.
Mais tu sais que c'est pas tout. Dans les rumeurs qui sont encore une fois corroborées par plusieurs médias sérieux, on a également le fait qu'un nouveau Paper Mario sortira en 2020.
Un vrai. Et pas
potentiellement. Et potentiellement qui serait plus proche de la formule originale. Alors ce sera l'occasion de découvrir ça. On parle également dans cette fête des 35 ans de Mario que d'autres jeux du catalogue qui sont pas nécessairement des jeux Mario 3D feront également partie des jeux qui reviendront et qui seront de nouveau distribués. Et là-dessus, je voulais te poser la question des jeux Mario en dehors des Mario 3D de plateforme tels qu'on les a évoqués, donc la lignée 64, Sunshine, etc. Lesquels t'aimerais voir revenir? Pour moi, ce serait Paper Mario 1, 2 et 3.
Bien sûr, Paper Mario. Non, mais quel jeu, quel humour, quelle écriture, quel gameplay. Enfin, c'est il faut que je les refasse. Enfin, c'était vraiment quelque chose.
Ah bah ça va peut-être. J'espère que ça viendra en tout cas.
Ah oui, j'ai fini aussi pour la première fois très récemment Super Mario RPG. Donc le premier RPG Mario qui est un petit peu l'ancêtre des Paper
pas
Mario.
Pas trop exigeant, pas trop difficile.
Bah non, pas tant que ça. Non, au contraire. Très agréable parce que tu jouais avec Mario, Bowser et Peach et deux personnages inédits. Il est un petit peu court, mais il est très sympa. J'ai vraiment
Est-ce que tu fais maintenant partie de ces gens
plaisir.
Qui demandent Geno pour Smash?
Bah je le connaissais déjà avant Geno, hein, mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais après pourquoi pas, hein, je serais pas forcément contre qu'il intègre le. Mais dans ce cas il faut un bon niveau inspiré de ce jeu. mais voilà, c'est il y a plein de... Oui, pour moi, les Paper Mario, c'est quand même la priorité.
Et l'autre point que je voulais soulever, c'est que ça fait très longtemps, rappelle-toi, quand on avait parlé de Mario Maker 2, on s'était dit, tiens, c'est marrant, et il pourrait mettre d'autres styles supplémentaires.
Ah, oui.
Est-ce que l'anniversaire des 35 ans de Mario pourrait pas être une occasion de vendre du DLC ou de faire une mise à jour gratuite en ce sens? Moi, je pense, hein.
Mais avec le style de Mario Land,
ça fait
bien
pas
évidemment.
Partie, ça fait pas partie des rumeurs, je tiens à le préciser aussi, mais je trouverais ça effectivement intéressant. Et tu l'as dit, et je souscris à ce que tu dis, effectivement, il y a tout un catalogue Game Boy, Game Boy Advance, DS,
bien sûr.
Qui est sous-exploité par Nintendo en général, et je parle pas que de la licence Mario. Je veux dire, quand Nintendo fait des hommages à son rétro, c'est majoritairement la NES, et de temps en temps la Super NES, et très rarement la première Game Boy.
Alors
c'est
que la Game Boy, en termes de vente, enfin voilà quoi.
Et en termes d'impact, enfin merde, il y a beaucoup de choses. Alors je dis pas que la NES a pas eu d'impact, hein, pour eux c'est vraiment, c'est l'histoire qu'ils se sont donnée. C'est pas la véritable histoire de Nintendo, mais l'histoire de Nintendo, c'est un peu le Game & Watch, et surtout la NES. Ça c'est là où eux placent le curseur en mode c'est là qu'on a commencé à exister dans le jeu vidéo. C'est faux, mais c'est un moyen pour eux de construire un monde où Mario a toujours existé, où un certain nombre de genres, un certain nombre de licences ont toujours existé. Et je trouve ça un petit peu dommageable parce que d'une part t'oublies ce qui est venu avant et d'autre part tu oublies également ce qui est venu après. T'as des jeux qui sont extraordinaires comme par exemple Donkey Kong 94 qui est l'ancêtre de l'excellent Mario versus Donkey Kong sur Game Boy Advance que je vous encourage à faire sur console virtuelle d'ailleurs les deux, donc le jeu Game Boy Advance Mario versus Donkey Kong vous pouvez vous le faire sur Wii U. Qui est console virtuelle GBA, et Donkey Kong 94, vous pouvez le faire sur console virtuelle, sur 3DS, c'était un jeu Game Boy original à l'époque. Et de bons jeux de plateforme puzzle qui sont aujourd'hui complètement oubliés.
Et oui.
Donc voilà. Donc RT, si c'est triste, déjà, pour commencer. Et puis deuxièmement, on voit ça venir avec plaisir, on espère que ça tombera probablement pendant le 3 hein, en termes d'annonce. Avec des jeux qui j'imagine seront sortis au compte-gouttes d'ici la fin de l'année. C'est probablement comme ça que ça va se passer. En tout cas, je croise les doigts, je touche du bois, mais c'est des sources assez sérieuses. On n'aime pas beaucoup parler de rumeurs quand c'est pas corroboré d'une manière ou d'une autre, et là, pour le coup, c'était l'occasion de le faire. Maintenant, la malchance ultime, c'est si jamais il l'annonce en propre d'ici qu'on publie le podcast vendredi 10. Là, on aura l'air bête, évidemment.
Oh, bah, on sera content.
Mais on sera content.
Voilà. L'annonce sera supérieure à le fait de se faire crier.
Très bien. Es-tu prêt? Il est de retour pour le calendrier de la cartouche, mon cher Lou.
Ah bah écoute, plus que jamais.
Plus que jamais, la sortie de jeu du 10 avril au 23 avril 2020. Alors, confinement oblige, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, ce qui fait qu'il y en a vraiment, véritablement qu'un seul, et il s'appelle Final Fantasy VII Remake, l'action RPG de Square Enix. Alors certes, pas mal de gens qui l'avaient commandé l'ont déjà reçu. On a pu le voir sur les Rêves of Yo. Mais donc oui, l'action RPG de Square Enix sur PS4. Est-ce que tu vas le faire, Lou?
Ouais, bah évidemment, mais pas sur PS4. Donc, je ferai sur PC, sachant que l'exclusivité a été repoussée en même temps que le jeu. Donc on en a pour un an d'exclusivité sur PS4. Il y a de grandes chances quand même qu'il arrive sur PC par la suite. Et ça m'embête parce que je vois tous les retours des gens qui sont complètement retournés par cette version. Enfin, c'est fou et ça donne envie. Enfin, je veux dire, j'ai recommencé FF7 justement l'année dernière parce que je voulais vraiment me replonger dans le jeu et ça faisait longtemps que je voulais le refaire. C'est le FF que j'ai le plus refait et c'était au moins la quatrième fois que je le fais, je crois, quatrième ou cinquième. Et toujours aussi bon, hein, le jeu original, avec un gameplay au poil, une traduction toujours aussi pourrie, mais le jeu est toujours quand même aussi bon. Et le remake, voilà, qui se déroule dans la première partie du jeu, le premier disque, en fait, on est à Midgar, même moins que le premier disque, en fait, au final. On reste à Midgar, et plein de nouvelles scènes, des chapitres inédits. Voilà, je veux vraiment le faire, et ça a l'air fou, j'essaie de pas trop lire pour pas me spoiler, mais je suis impressionné par le fait que même des grands, grands fans les trouvaient bons, c'est très rassurant, c'est très rassurant. Il y a un petit côté Sonic aussi, tu vois, c'est qu'on attendait presque le pire, et finalement, bah non, en fait, finalement, c'est bon, quoi. Donc je suis extrêmement pressé et extrêmement déçu qu'il y ait cette exclusivité d'un an sur PS4.
Bon, écoute, ça c'est un jeu qui m'a pas mal chauffé sur la démo. Après, je l'ai trouvé assez répétitif dans son dernier combat et c'est un petit peu ce qui m'a fait décrocher. J'ai pas lu énormément de choses à son sujet, mais il y a un truc qui est frappant, c'est qu'il est magnifique et qu'il est hyper accessible aux gens que le RPG tour par tour rebutait un petit peu. Donc FF7 Remake, moi ce que je peux vous encourager à faire, c'est à tester la démo. Voilà, tout simplement, parce que c'est un style de jeu vraiment différent, qui vous plonge dans le même monde, mais en plus détaillé et en plus immersif. Et pour cela, c'est une recommandation du type « Travez votre curiosité, allez voir ce que la démo donne ». Si tu le veux bien maintenant, on va passer au suivi et au courrier, les questions-réactions de nos auditrices et de nos auditeurs. Et on commence par BC. Alors, est-ce que BC est à bicyclette, comme le chantait je ne sais plus qui, je ne sais pas. Toujours est-il. Hello, nous dit BC. Pour passer le confinement, auriez-vous un jeu PC correspondant aux critères suivants, en ligne avec beaucoup de coop, jouable sur un ordinateur portable de 2014, pas ouf, merci d'avance. Par coop, j'entends teamplay. Lou, est-ce que tu as une recommandation à faire?
Bah écoute, j'ai testé un jeu avec Koinsky, si vous le connaissez, youtubeur spécialisé dans la gestion principalement, qui s'appelle We Were Here, un jeu qui m'a été conseillé par Kassim. Il y a trois jeux, hein, We Were Here, We Were... je ne sais plus, je sais plus les autres noms, mais en gros, c'est ça. C'est un jeu d'énigmes coop asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un explorateur et un bibliothécaire, un savant, un libraire, qui consulte des livres et qui lui explique en fait comment avancer avec les énigmes. Graphiquement, c'est pas un foudre de guerre, mais sur le principe, tout se passe sur la communication. Donc nous, on a un petit peu triché parce que le jeu te donne un talkie-walkie normalement, donc tu parles et t'es obligé d'écouter et genre de choses. Nous, on était directement sur Discord pour discuter. Mais j'avoue que j'ai bien aimé l'expérience. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça se fait en une heure en plus, hein, donc c'est
et c'est gratuit.
Et c'est oui, je crois qu'il y a des épisodes gratuits. Le premier doit être gratuit.
We Were Here
est
gratuit et ensuite We Were Here Together sont. Alors je le vois en franc suisse, mais je le vois à 11 francs. Donc j'imagine qu'il doit être autour de 10 euros.
Ouais, pas très cher. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui peut être aussi graphiquement, vous pouvez jouer sur des ordi portables de 2014. Je pense que ça va fonctionner. Donc Voilà, un petit jeu d'enquête assez intéressant que je conseille.
Très bien. Pour ma part, j'aurais tendance, alors dans un style complètement différent, et vu que je parlais de jeu Valve tout à l'heure, à recommander un autre jeu Valve qui, wink wink, est également disponible sur Xbox One via la rétrocompat Xbox 360 en l'achetant en ligne sur le site de Microsoft. C'est Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 à faire tourner évidemment peut-être dans des specs un petit peu baissés. Ça se fait en ligne, ça se fait en coop. Alors c'est beaucoup de coop effectivement. Il faut être en contact permanent avec là où les personnes avec lesquelles tu joues, jusqu'à 3 personnes, voire même un petit peu plus, avec un aspect à la fois coop. Une équipe contre l'autre, les survivants contre les zombies. Mais quel que soit le mode que tu choisis de mettre en place, ce sera très fun et vraiment chaud de recommandations. Seul le défaut, je disais tout à l'heure, c'est sur PC, mais c'est aussi disponible sur Xbox. C'est pas il n'y a pas de crossplay en ligne, tu peux pas jouer avec des joueurs console en même temps que sur PC et l'inverse. Il faut vraiment être sur le même support pour que ça marche. Au sujet d'Animal Crossing, maintenant, c'est Damien Carras qui nous écrit vis-à-vis donc de l'épisode précédent qu'on avait fait avec Luxbox, où on parlait notamment des limitations d'être un villageois, un second villageois, sur la même île, donc sur un autre profil de la même console. Damien nous dit « Pour nuancer vos propos, ma copine est seconde joueuse et au début, on a été déçus de voir qu'elle avait des missions en moins. Mais finalement, au bout d'un moment dans la progression, cette différence s'atténue et l'expérience reste très plaisante, même pour elle. Du coup, j'ai collaboré avec elle en la consultant sur les décisions et en lui montrant ce qu'elle ratait. Plusieurs switches à la maison, donc partager notre île était un choix et non une contrainte. Et ça aide quand même pas mal à développer l'île. L'union fait la force. » Concernant les interactions avec les PNJ, oui, désolé. Ça s'améliore s'améliore aussi beaucoup par la suite. Je m'attache d'ailleurs énormément à eux. Le plus frustrant, c'est de ne pas pouvoir jouer en multi-online avec d'autres joueurs simultanément. Le mode de joueur devant le même écran est très limité. Alors, ce que je pense que Damien veut dire, et c'est un cas de figure que je n'ai pas testé, c'est si tu joues à plusieurs simultanément et qu'en plus, enfin, en local, et que en plus, tu voudrais ouvrir ton village en online.
A priori, pas possible.
A priori,
c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas pouvoir tous y aller en même temps. Mais bon, j'ai un petit peu avancé dans le jeu.
Ouais.
Et justement, c'est vrai que les PNJ, ben, je commence à m'attacher un peu plus. Ils sortent un petit peu plus. Là, j'ai des nouveaux habitants qui sont arrivés. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux. Les interactions sont quand même un peu plus poussées. Ça fait moins automatique, comme on avait pu le dire, du coup, dans le test, parce que j'étais pas très avancé en même temps quand j'ai joué. Et là voilà, mais je fais ma petite session d'une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, et je me rends toujours compte que même à ce rythme, enfin des fois je dis allez je vais jouer 20 minutes et c'est trop dense, et c'est rare dans Animal Crossing de dire putain c'est trop dense, je n'ai pas assez de temps pour le faire. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup parce qu'on est au début et aussi parce qu'il y a l'événement des autres packs en ce moment qui est catastrophique,
ralenti tout
qui a heureusement été réduit en termes d'apparition des œufs, mais voilà, c'est intéressant, c'est vraiment vraiment j'aime toujours autant, et je trouve que c'est très original comme approche et beaucoup plus dense encore une fois, enfin j'aime énormément.
Pour ma part, Animal Crossing, j'apprécie également. Je continue à trouver les dialogues avec les villageois un peu creux, même si j'ai pu voir des screenshots de villageois qui sont vraiment vénères et pour aucune raison. Donc j'ai hâte que ça m'arrive, parce que c'est le type de random et on va dire de différence de registre qui me plaît et qui me manque un petit peu à ce stade-là. Peut-être que j'ai simplement pas tiré les bons villageois.
C'est ça, ça dépend beaucoup aussi des personnages que tu as. Le problème, selon moi aussi, c'est que de base, le jeu te force à avoir un villageois grande sœur et un villageois sportif. Alors les sportifs évidemment c'est pas mes préférés, ils parlent vraiment ils passent vraiment leur temps à parler de sport. Encore j'aime bien, moi j'ai Cali, donc il est plutôt cool, c'est un petit lapin assez marrant qui aime beaucoup les choses japonaises, mais voilà, c'est pas mon type de perso préféré. Moi j'aime bien un petit peu ceux qui sont un peu plus zinzin, on va dire, et rigolo, notamment les désagréables sont toujours un peu marrants et ça manque un petit peu, mais voilà.
Je remarque là, visiblement, d'après Animal Crossing Wiki, donc animalcrossing.fandom.com, attention, source incroyable, paraît que la phrase de signature de Kali, c'est « Otaku ». Est-ce que tu confirmes ?
Non.
Non, c'était dans un autre jeu, dans ce cas-là.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant de phrases signatures, enfin, tu sais, le fameux mot qu'ils répètent tout le temps. Je suis en train de tilter.
J'ai une vache qui dit menant à chaque bout de phrase. C'est mignon.
Tu me rends pas compte, c'est bizarre. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais plus qui le dit, mais il y en a un qui dit sacrelotte.
Sacrelotte.
Sacrelotte. Je crois que je l'ai dans ma partie de, sur GameCube.
Nice.
Et je trouve ça trop mignon, sacrelotte.
Luigi nous écrit, alors pas Luigi évidemment de Super Mario Bros s'il vous plaît, qui nous écrit, qui nous dit bonjour à tous les deux, attends une idée de l'incidence des confinements sur les nombres d'abonnements Nintendo et Xbox Game Pass. Non, parce que c'est pas des chiffres qui sont publics, mais alors est-ce que c'était lié à Animal Crossing ou pas, un peu avant le lancement d'Animal Crossing, mais qui était un peu, qui était également concomitant au début du confinement un peu partout dans le monde, les services online de Nintendo en ont pris plein la figure plusieurs jours de suite. Voilà, ça c'est le seul, la seule espèce d'indication que j'ai en tête. Je crois pas avoir été au courant d'un truc équivalent chez Microsoft pour le coup, ni chez Sony d'ailleurs. Donc pour l'instant les infras semblent bien tenir. Je crois par contre que c'est Steam qui vient de battre son record de personnes connectées simultanément aux clients, et ça je pense que ça s'explique effectivement par le confinement. Voilà. Je sais pas si t'as vu passer d'autres choses, toi, dans la presse, Lou, à ce sujet, mais...
Pas du tout. J'ai vu passer beaucoup de choses dans la presse, mais peu de jeux vidéo en ce moment, je t'avoue.
Beaucoup plus de barbiche de Edouard Philippe, je peux le comprendre. Si vous souhaitez nous écrire, il suffit de nous envoyer un tout petit message, lacartouche@blueprint.pm ou @lacartouchebp sur Twitter. On se fait un plaisir de vous lire. Bon allez, c'est pas tout ça, on approche de la fin de l'épisode, et juste avant de le terminer, j'ai envie de te poser cette question, mon cher Lou, à quoi joues-tu en ce moment ?
Alors écoute, en ce moment je suis confiné, je ne suis pas confiné seul, je suis en compagnie charmante de ma moitié, du coup on en profite pour faire des jeux en coop, et on s'amuse bien, je l'ai converti à Overcooked. Overcooked qui est toujours une épreuve quand même entre joueurs, parce que c'est on rigole et on s'engueule aussi beaucoup quand même dans ce jeu. Donc j'ai refait le premier, hein, que j'avais déjà fait en entier, on l'a refait sur Switch, et j'ai commandé le 2, du coup j'ai hâte de faire Overcooked 2, et on se replonge également dans Lego Le Seigneur des Anneaux. Je me souviens, je l'avais testé à l'époque du coup sur... Mais ça me fait rire parce que je sais à quoi tu joues en ce moment, et justement on le faisait aussi il y a quelques mois d'ailleurs. Seigneur des Anneaux, c'était le premier qui parlait en fait. C'est la première fois qu'on avait des voix dans les jeux Lego, avec notamment des extraits directement du film, hein, en termes d'extraits sonores. Donc c'était assez intéressant. Et il était vraiment bien. Il y avait vraiment, le hub était immense avec des quêtes et tout. Enfin, c'était un vrai virage dans la licence, et très très intéressant. Et il a pas vieilli du tout. Et je trouve que c'est ça aussi qui est fort avec les jeux Lego, c'est que bon, graphiquement ça a pris un petit coup, mais ça marche encore très très bien aujourd'hui. Et en termes de gameplay aussi, ça suit encore très très bien. Donc c'est aussi pour ça que je suis aussi hypé et aussi en attente du fameux Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui va reprendre les 9 films. Donc vraiment j'ai très envie. Et un petit bonus, parce que sur Steam il y a plein de jeux de société qui sont vraiment très très bien, je vous conseille Mysterium, mais aussi Ticket to Ride, donc les aventuriers du rail en français, pour le jeu de plateau, qui est un jeu très très simple vraiment. Et on joue à ça du coup avec des amis, en mettant les caméras, tout ça, pour que ce soit un peu plus convivial. Et on s'amuse beaucoup, et on gagne beaucoup aussi, voilà. Et toi du coup tu joues à un jeu, ben c'est pas très éloigné de ce à quoi je joue en ce moment finalement.
Exactement, puisque là où je passe pas mal de temps à côté d'Animal Crossing et à côté de ce dont j'ai déjà pu parler pendant cet épisode, c'est Lego Harry Potter Collection sur Switch, que j'avais pris il y a un an maintenant, et qui est resté assis sur ma pile de la honte pour un petit moment. Et là je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me plonger dedans, j'aime beaucoup l'univers, et le jeu prend des libertés scénaristiques que j'avais pas remarqué auparavant, en ayant juste joué 5 minutes avec les films et les livres d'ailleurs, et je trouve ça intéressant parce qu'il explique, étant donné qu'il lui manque justement les mots, les personnages ne parlent pas, ils font juste des petits borborygmes, il doit expliquer d'une manière ou d'une autre comment est-ce qu'on se retrouve là, comment est-ce que telle action a lieu, ou tel personnage est à tel endroit, sans rien. Et donc du coup il triche un petit peu avec ce qui se passe dans la série, et je trouve ça intéressant parce que ça donne une sorte de seconde lecture, alors très très rapide, à travers ces petites scénettes là. D'un point de vue de gameplay, c'est quand même assez assez répétitif, mais je m'y fais bien, et je trouve le petit équilibre où tu casses des trucs et en même temps t'en remontes avec le Wingardium Leviosa, qui est un petit peu le sort principal de ce jeu là je trouve que ça fonctionne bien. Le pacing est bon également, tu passes pas trois plombes dans le même film ou dans le même bouquin. T'as, on va dire, 8 missions par histoire.
6.
Ou 6, ouais, 6, 6 effectivement. Ouais. Et je sais pas, je trouve que ça colle bien, je trouve que ça marche bien.
C'est vraiment des bons jeux, hein. Les jeux Lego, franchement, c'est idéal.
Et
c'est,
même seul, pour
c'est
le
cool.
Coup.
Oui, tout à fait.
Ça se fait bien avec un petit podcast en fond, je vous recommande. Puis la musique de John Williams qui est derrière, fantastique. En tout cas, pour
je
les...
vous conseille les Jurassic World, les Pirates des Caraïbes. Enfin, il y a vraiment, il y a des jeux Lego pour tout le monde. Il y a plein de super bons jeux.
Et j'en profite aussi pour dire que je fais Portal et Portal 2 en parallèle aussi en ce moment. Et c'est génial de pouvoir comparer le level design, la technologie, de pouvoir comparer un petit peu tout ça. C'est cool. De voir l'évolution de ces différents jeux et également comment est-ce que Portal 2 dans ses premiers niveaux, dans ses premières salles de test fait complètement hommage au premier Portal, à la fois ne pas changer une recette qui gagne et faire réapprendre le jeu avec à peu près les mêmes puzzles et puis en même temps faire une sorte d'hommage un peu plus appuyé aux vestiges du premier. Donc voilà, c'est fun également. Voilà, on a fait le tour de tout le programme pour l'épisode d'aujourd'hui. La cartouche est donc finie pour cette fois. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun numéro de l'émission si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous soutenir en parlant de la cartouche autour de vous. Merci beaucoup Lou d'avoir préparé et présenté cet épisode avec moi.
Avec grand plaisir Yann.
J'ai une dernière chose à vous dire, chères auditrices, chers auditeurs, c'est prenez soin de vous, rendez-vous dans 2 semaines, à très vite, ciao ciao.
Salut.